France Culture, carnet de santé, Marina Carrère d'Ancos.
Que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne dans le coma? Que comprend-elle? Qu'entend-elle? Quel espoir de réveil, de récupération? Peut-on d'emblée prédire ses possibilités et donc adapter la prise en charge? Bien sûr, les connaissances, notamment grâce aux nouvelles technologies d'imagerie, ont progressé, mais cet état reste encore très mystérieux et continue à la fois d'inquiéter et de fasciner. Fasciner, car il interroge notre compréhension de la conscience. Un homme a toute sa carrière exploré notre esprit humain, nos pensées, nos perceptions et émotions. Ses travaux portent sur le coma, donc, mais aussi sur les commotions cérébrales, l'anesthésie, le rêve, l'hypnose, la transe, la méditation et les EMI, expériences de mort imminente. Expériences qui restent aujourd'hui insaisissables, profondément personnelles et l'objet de multiples hypothèses et de questions. Est-ce la preuve de la vie après la mort ou une pure hallucination? La conscience réside-t-elle uniquement dans le cerveau? Cet homme dont je parlais, pour tenter de comprendre ses patients qui racontaient leur expérience, a tout fait pour en vivre une. Avec succès, ses connaissances et hypothèses ont-elles aujourd'hui évolué? Il va nous le dire, il est notre invité. Professeur Steven Lorez, bonjour.
Bonjour Marina.
Vous êtes neurologue, directeur de recherche au Fonds National de la Recherche Scientifique Belge, directeur fondateur du Coma Science Group à l'Université de Liège. Récemment, vous avez été récompensé par la chaire d'excellence en recherche du Canada en neuroplasticité à l'Université Laval. Et vous êtes actuellement professeur invité à l'Université de Harvard, entre autres, parce que je ne peux pas tout citer. Mais je vais surtout dire que vous venez de publier un livre qui est absolument fascinant, qui s'appelle « L'expérience de mort imminente » chez Odile Jacob et que je recommande vraiment vivement. Alors je le disais, vous êtes un éminent spécialiste du cerveau, on va parler donc avec vous coma et EMI, mais d'abord un petit point sur votre parcours, quand vous choisissez la neurologie, et plus précisément cette neurologie de la conscience comme spécialité, c'était facile de trouver des financements, parce qu'aujourd'hui cette spécialité quand même elle fascine, mais à l'époque ça se passait comment?
C'était difficile, je pense que le sujet était un peu tabou, et c'est jamais bon quand un chercheur va s'auto-censurer, hein, donc dans les années 90, quand comme jeune médecin, je me posais des questions. Est-ce que ce patient dans le coma est vraiment inconscient? Qu'est-ce que je peux dire vraiment? C'était, très très compliqué. Encore aujourd'hui, quand même, le sujet est par certains considéré comme ésotérique, comme ça vaut même pas la peine d'être étudié. Pourquoi aussi donner des faux espoirs à tous ces patients, ces familles? Mais je suis heureux maintenant de voir qu'il y a beaucoup de labos qui s'y intéressent et qu'on a quand même fait un petit bout de chemin.
Quand vous avez commencé vos travaux sur le coma, donc dans les années 90, on savait quoi de cet état-là?
Alors, c'était assez simple. On a le coma, après un trauma crânien, une hémorragie cérébrale, un arrêt cardiaque, ou bien les choses vont très vite, très mal, c'est la mort cérébrale, ou bien on récupère, très bien, ou on avait cet état appelé à l'époque végétatif, c'est un nom horrible, on va pas comparer.
Qui est toujours employé d'ailleurs par certains.
Alors oui, et là aussi ça reste un combat parce que avec le Task Force européen, on a proposé un autre nom neutre, c'est un éveil non répondant. Mais c'était une vision très un peu si on a cette étiquette végétative, on attend de mourir. Et maintenant, on sait tout d'abord qu'il y a une partie de ces patients qui sont parfois un peu conscients. C'est ce qu'on appelle l'état de conscience minimal. Ou
même s'ils ne répondent pas.
Même si, par définition, il n'est pas capable de communiquer ni verbalement ni par un signe. Qu'il y a aussi des chances de récupération vers une certaine qualité de vie. Donc on a une vision beaucoup plus dynamique. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Il y a des patients, certainement les jeunes traumatisés crâniens, où ces milliers de milliards de connexions arrivent, c'est ce qu'on appelle vraiment cette plasticité, à assurer une récupération fonctionnelle. Et la neuroimagerie, comme vous l'avez dit, nous a permis de mieux documenter et d'être plus précis dans le diagnostic et aussi dans le pronostic, et même de proposer des nouvelles pistes thérapeutiques.
Mais justement, comment, avec quel examen, on a appris effectivement ces niveaux éventuels de conscience, de semi-conscience, chez des patients qu'on disait à l'époque en état végétatif?
Alors, donc, mon intérêt, il est un petit peu... la source, c'est une frustration. On est au bord du lit du patient et on va observer son comportement. Est-ce que c'est un réflexe ou est-ce que c'est un mouvement volontaire? Est-ce qu'il répond à la commande ou pas? Et évidemment, avoir une mesure de ce qui se passe dans le cerveau, c'était une grande valeur ajoutée. Alors à l'époque, c'était le PET scan, la tomographie à émission de positons. Donc on a injecté du sucre radioactif parce que le cerveau y consomme beaucoup d'énergie. On n'avait pas encore l'IRM fonctionnel. C'était avec des injections d'eau marquées radioactives qu'on pouvait voir comment ce cerveau réagit à une stimulation auditive, la douleur. Et qu'on a vu, à notre grande surprise, qu'il y avait des personnes dans le coma ou après, dans cet éveil non répondant, où j'avais aucun signe de conscience comportementale, et quand même, il y avait encore une certaine activité cérébrale, et donc une capacité à une certaine conscience.
Qu'est-ce qu'on sait grâce à ces examens, notamment, ce qui se passe dans le cerveau d'une personne dans le coma? D'abord, est-ce que ça se situe toujours au même endroit? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs erreurs historiques. Donc, la conscience, c'est pas tout ou rien.
Ce qu'on a longtemps pensé.
Voilà. Donc, on est conscient, on n'est pas conscient. Mais c'est beaucoup plus nuancé que ça. C'est même pas 50 nuances de gris, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, cette forme de conscience chez le patient en état de conscience minimale, ben, c'est très difficile pour nous, en pleine bonne santé, d'avoir une idée de ce que c'est, certainement pour la capacité à avoir des émotions, aussi bien positives que négatives. Et donc, grâce à l'étude, j'ai créé le Coma Science Group, mais on a aussi étudié le coma pharmacologique, le rêve. Et si on doit résumer tout cela, on a quand même pu identifier deux réseaux de la conscience. Un, ce qui est important pour ma perception, tout ce qui passe par mes sens, je vous entends, je vous vois. Il y a un réseau, c'est pas une petite région, c'est vraiment un réseau qu'on appelle fronto-temporoparietal, des deux côtés des hémisphères, qui semble être critique. Puis il y a une deuxième composante, c'est mes pensées. Là, je peux fermer mes yeux, et bien j'ai cette petite voix dans ma tête, je peux m'imaginer des choses, ça me permet d'anticiper qu'est-ce qui va passer, d'apprendre de mon passé autobiographique. Et donc là, c'est un deuxième réseau de la conscience du monde intérieur, c'est plus profond. Et cela a permis de traduire ces connaissances vers une meilleure prise en charge et une amélioration du trajet de soins après coma.
Et est-ce que ça a permis de mieux comprendre ce qu'était la conscience?
Alors, je pense qu'il ne faut pas être trop arrogant, ça reste un des grands mystères pour la science. Notre univers intérieur, on n'a pas aujourd'hui une théorie qui explique comment quelque chose de matériel, moi je suis neurologue, donc mon domaine d'expertise c'est le cerveau, mais comment il produit, on dit que c'est une fonction émergente à travers ces connexion, cette dynamique entre le thalamus qui est profond et ces deux réseaux de la conscience. On a fait des progrès, et c'était important, ça a quand même changé les livres de médecine, mais je pense aussi que dans ce domaine, il faut garder un esprit ouvert. Avec Giulio Tononi, qui est aux États-Unis à Madison, on a écrit un livre, The Neurology of Consciousness. Il a cette théorie où l'information doit être intégrée, où peut-être la conscience peut être considérée comme une propriété fondamentale de la nature, peut-être même universelle. Mm-hmm. Alors là, on est même proche du panpsychisme. Mm-hmm. Mais il y a des mathématiques derrière, on peut faire des prédictions, on peut tester. Et donc, c'est important que le sujet soit étudié, parce qu'il est évidemment pas que philosophique, il y a vraiment des patients avec des maladies du cerveau qui vont pouvoir en bénéficier.
Ces connaissances sur la conscience dans le coma et ces nouveaux degrés de coma, ça change quoi dans la prise en charge clinique, pratique auprès du patient?
Alors je pense, on peut pas construire sur du sable. Hein. Si déjà mon diagnostic il n'est pas bien fondé, si j'ai pas la capacité de prédire est-ce qu'il a ou pas des chances de récupération et quelles sont mes options thérapeutiques. Donc c'est clair que on a publié beaucoup sur la valeur ajoutée de ces différentes techniques de neuroimagerie. Et évidemment, c'est important. Si vous ou votre proche, vous êtes dans un lit avec l'étiquette végétatif et on va vous traiter ainsi, et qu'en réalité, vous avez des perceptions, et comme on l'a démontré, y compris la douleur, mais ça change directement beaucoup de choses. Vous allez donner des antidouleurs, mais aussi accès à toutes ces techniques de neuroéducation, avec la robotique, avec la neuromodulation. On peut maintenant stimuler la neuroplasticité.
De l'extérieur ?
Oui.
Donc on revient à la neuroplasticité, c'est le fait de pouvoir développer de nouvelles connexions et de nouveaux réseaux pour que le cerveau continue de fonctionner, même si des zones ont été abîmées. Et là, qu'est-ce que vous faites en pratique dans la neuromodulation ? On met des appareils extérieurs pour stimuler ces connexions ?
Oui, donc on peut mettre deux électrodes avec un faible courant pendant 20 minutes et on a démontré avec des études contrôlées que ça peut stimuler la neuroplasticité et la récupération fonctionnelle. On a aussi la possibilité de stimuler la matière grise avec des aimants. Et donc, cela change nos possibilités non seulement en neurologie mais aussi en psychiatrie.
On considère qu'il y a beaucoup, enfin plus en tout cas qu'avant, de personnes dans le coma pour lesquelles il faut tenter des choses.
Oui, je pense là aussi, j'ai très souvent entendu aïe, n'en parlez pas, vous allez donner un faux espoir à toutes ces familles. La réalité, c'est peut-être qu'on a créé comme communauté médicale un sort de faux désespoir. Et c'est un peu comme avec le cancer. Il n'y a pas si longtemps, ce diagnostic, on a le cancer, on va mourir. Et heureusement qu'il y a eu des chercheurs qui ont permis de mieux comprendre. Il y a différents types de cancers. On a maintenant des personnes qui vont guérir. Et ici, je pense que c'est la même chose. Oui, c'est compliqué. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Le cerveau, il a sa fragilité, mais aussi sa résilience. Et donc, cette vision beaucoup plus dynamique. Quand moi j'étais à l'université, dans les années 80, on a encore appris qu'on est né avec un nombre de neurones, et puis on ne fait que perdre ces neurones. Là aussi, on sait maintenant qu'il y a la neurogenèse, qu'on fait des cellules nerveuses, et que ce dogme n'était pas correct. Donc on a vraiment cette possibilité d'offrir une meilleure récupération à certains de ces patients, et l'IRM fonctionnel, l'électroencéphalogramme, le PET scan nous permet d'identifier qui va pouvoir récupérer ou pas, parce que ça fait aussi partie de notre travail, de dire, là, on a perdu le combat.
Mais c'est tout. Justement, parce que c'est important, il y a beaucoup de proches de personnes qui sont dans le coma, qui ont tellement peur que cette personne devienne ce qu'on appelait aussi horriblement un légume des états végétatifs, qui voudraient qu'on puisse le dire d'emblée, qu'il n'y ait pas de réanimation. De toute façon, en France, on réanime quoi qu'il arrive, c'est un principe, on essaye. Mais est-ce qu'on pourrait d'emblée, quand il y a un accident, par exemple, de voiture avec un traumatisme crânien, est-ce qu'on pourrait dire, non, là, c'est pas la peine de réanimer, il n'y a aucun espoir?
Alors, ça, c'est tout le domaine d'expertise des neurologues qui travaillent aux soins intensifs. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent, la cause. Donc, le trauma, c'est souvent plus compliqué parce que vous avez une hémorragie d'un côté, un gonflement, et donc les parties autour de la blessure ou l'autre hémisphère, l'autre côté du cerveau, peuvent remplacer le fonctionnement. Ça va être différent si vous avez un arrêt cardiaque, parce que ça, c'est tout le cerveau qui a souffert, et donc là, c'est plus difficile pour cette neuroplasticité. Si c'est une intoxication, si c'est une hémorragie, l'âge du patient, la durée de cet état. Et donc, parfois, c'est très clair. La majorité des décès aux soins intensifs, que ça soit en France ou ailleurs, c'est une décision médicale.
On arrête la réanimation.
On laisse mourir. Et donc, c'est très important d'être transparent là-dessus. J'aimerais aussi faire une invitation à tout le monde qui nous écoute, parce que ça peut m'arriver ce soir, demain. Et ça aide les médecins de faire une déclaration anticipée.
Les directives anticipées en France,
C'est
moins de 20... Pardon, c'est moins de 20% des plus de 50 ans qui l'ont rédigé. Alors, on rappelle que d'écrire ces directives anticipées, ça ne fait pas mourir.
Absolument.
C'est essentiel.
C'est très important. La religion joue un grand rôle, il faut en tenir compte. Donc, quelles sont mes convictions philosophiques? Et on peut remplir ce document et aussi identifier quelqu'un qui va pouvoir parler à notre place quand ce sera plus possible. Donc, ça va vraiment nous aider pour, dans cette situation dramatique, respecter l'autonomie, qu'est-ce que ce patient spécifique dans ce contexte aurait souhaité.
On va continuer sur la conscience parce qu'elle est aussi largement interrogée dans ces phénomènes que sont les expériences de mort imminente. Vous avez tenté d'en vivre une, vous aussi, pour mieux comprendre. On en parle tout de suite. Il y aurait dans le monde 4 à 5% d'expérienceurs. C'est ainsi qu'on appelle ceux qui ont vécu une EMI. Et pour comprendre ces personnes, donc le professeur Stephen Lerice, neurologue, spécialiste du cerveau et de la neurologie de la conscience, a tenté d'en vivre une. Vous le racontez donc dans votre livre absolument passionnant, L'expérience de mort imminente chez Odile Jacob. L'émission est préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost avec à la technique Noé Chaban, à la vidéo Edouard Rubinstein. Donc vous dites que vous avez voulu comprendre vos patients. Il y a quand même une petite histoire personnelle là-dessous. Vous êtes né un 24 décembre, ça ne s'invente pas. Votre mère a failli mourir, elle a été sauvée, mais elle a fait une EMI, ce que vous allez découvrir des années plus tard. Et c'est une expérience négative qu'elle a vécue. Quand on parle d'EMI, le récit est plutôt assez beau. Écoutez Nelly qui raconte ce qu'elle a vécu sur ICI. Elle avait 26 ans.
Je suis partie, moi en fait, c'est comme quand on enlève un gant du gant MAPA. Hein. Je suis partie, je suis sortie de mon corps comme ça. C'était, en plus, j'étais dans un couloir parce qu'il y avait des soucis de place. Et donc, je suis partie, je me suis retirée de mon corps par la tête. Et donc, je suis partie, effectivement, dans ce qu'on appelle ce tunnel, un tunnel grande lumière. Mais grande lumière pas éblouissante, une lumière très douce, très accueillante, très enveloppante, mais sans qu'on la sente. C'était vraiment un moment de plénitude, un moment de plénitude, de bonheur. Il y avait plus rien fait mal, plus rien n'existe, comme un vol, quoi.
Ce tunnel, cette lumière, cette paix, parfois avec des personnages de son passé, etc. C'est vraiment ce qu'on entend le plus souvent.
Exactement, en amenant des milliers de témoignages, numéro un, c'est ce sentiment de bien-être, il y a plus de douleur, puis il y a cette lumière, souvent interprétée comme un tunnel, la décorporation, donc on a ici un très beau témoignage, et en même temps on a constaté qu'il semble y avoir des différences culturelles. Je donnais une conférence à Saint-Pétersbourg, et il y avait là un prêtre, Father Sergei de l'église orthodoxe, qui me disait, moi je travaille depuis des années aux soins intensifs, et j'entends des récits très différents. La moitié des personnes qui vivent une émotion négative, qui vont parfois même voir le diable aller en enfer. Et donc, voilà.
C'est le spleen russe, ça.
Alors, oui, on peut se poser des questions, leur passé, l'Union soviétique, le rôle de l'Église, mais ça mérite notre attention. On n'aime pas l'anecdotique et donc on est en train d'étudier ça plus formellement.
Et au Moyen-Orient, c'est plutôt une porte que les gens voient, c'est ça?
Voilà, donc cette notion de lumière, tunnel, il y a plus une porte au Moyen-Orient, puis on travaille aussi avec l'Inde, là c'est une rivière. Maintenant, je suis en Amérique du Nord avec la chaire d'excellence et là, ils vont voir Elvis Presley. Clair que c'est une réalité neurophysiologique qui est universelle de tous les temps, mais qu'il y a quand même des différences culturelles et aussi, on a étudié la personnalité. Il y a peut-être une tendance, ce qu'on appelle fantasy proneness, on a des personnes qui travaillent dans l'artistique, apparemment vont plus fréquemment vivre l'expérience que par exemple moi-même ou comme on peut l'avoir comme médecin.
Et donc vous l'avez dit, dans 10% des cas c'est des expériences négatives, donc ce qu'a vécu votre mère, ce que vivent plus souvent les Russes, ça veut dire quoi? Il n'y a plus cette paix, cette douceur?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un biais avec les films aussi, comment c'est parfois présenté dans les médias, et même les échelles qu'on utilise. On considérait que c'était positif par défaut et c'est pas le cas, donc on a proposé une nouvelle échelle parce que oui, il y a cet état d'émotion pure, mais ça peut être positif ou négatif et justement pourquoi l'un et pas l'autre. On l'a comparé aussi à la prise de psychédéliques, en amenant des outils où on peut analyser ces textes avec l'intelligence artificielle et de vraiment avancer dans un domaine difficile, parce qu'on parle de une expérience personnelle, c'est la subjectivité pure, mais on a ce qu'on appelle la microphénoménologie, en amenant des outils pour mieux décrypter cela, et puis évidemment venir avec des théories qui expliquent est-ce que c'est ou pas une preuve de l'âme, de l'esprit, d'une vie après la mort.
On va évidemment y venir, mais donc je disais, vous avez voulu, vous, vivre une telle expérience, qu'est-ce que vous avez tenté?
Alors, c'était...
Pas des choses qui vous mettaient en danger, quand même, de mort.
Ben, mes enfants trouvaient quand même que c'était assez...
C'était trop.
Assez extrême. Mais c'était une discussion avec un journaliste, National Geographic, et à un moment, je me dis, ben, oui, on a publié beaucoup sur le phénomène, mais je me sens un peu comme ce scientifique qui étudie la vision en couleur, mais même si moi... Imaginons, j'ai une connaissance absolue théorique de ce qui se passe de la rétine jusqu'au cortex visuel, mais que je vois en noir et blanc. Le jour où je vais récupérer une vision en couleur, est-ce que ça va pas changer quelque chose? Est-ce que il n'y a pas une différence entre connaissance et expérience? Mmh. Et donc, oui, je me suis fait injecter de la psilocybine dans mes veines, dans une IRM à Londres. Et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je n'avais plus de corps, j'étais un avec l'univers. Et puis après, j'ai pu voir qu'est-ce qui se passait dans mon cerveau, mesuré par l'IRM fonctionnel. J'étais dans une énorme centrifuge en Varsovie.
Ce qu'on fait pour les astronautes.
Voilà, où j'ai pu vivre. J'ai pris 7-8G.
Ah oui.
Et puis, il n'y a plus de sang qui va vers le cerveau, vers la rétine. On a cette vision en tunnel. Et puis, j'ai perdu conscience.
Ah oui, je comprends quand même vos enfants, là, effectivement. mais ça n'a pas été des vrais EMI.
Alors, j'ai entre-temps vécu toutes ces caractéristiques, hein, y compris la décorporation. Il n'y a plus de notion de temps. Mais pas ce que j'entends de pas mal de participant, cette expérience mystique, non, j'attends.
À différence de l'expérience des études sur les rêves, c'est très compliqué d'étudier les EMI parce que ça prévient pas. Donc c'est ça prévient pas, ça c'est pas très durable non plus. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces EMI dans notre cerveau?
Alors, ça fait 25 ans qu'on étudie ces états modifiés de conscience, le coma, ce qui se passe aux soins intensifs. On a vu que 15% des personnes au CHU de Liège qui survivent ont une expérience de mort imminente.
Ils survivent quoi? À un arrêt cardiaque?
Peu importe la cause, que ça soit traumatique, arrêt cardiaque, hémorragie cérébrale, on se retrouve dans le coma aux soins intensifs, 15% vont... après nous partager ce qu'ils ont vécu, il y en a peut-être beaucoup plus et on peut avoir aussi problèmes de mémoire, comme avec le rêve, en effet. Hein. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de votre rêve de la nuit passée, mais c'est très probable que vous avez eu du sommeil paradoxal. Donc c'est compliqué, ça ne se passe pas non plus dans une IRM fonctionnelle où on peut voir, où je peux le reproduire dans un labo de sommeil pour étudier le rêve. Mais on a quand même une série de pistes. On a récemment publié qu'on peut reproduire le phénomène. Donc j'ai moi-même là aussi participé. On peut, à travers une série de manipulations, faire un manque transitoire d'oxygène vers le cerveau, je perds conscience, et la moitié de ces personnes qui vivent comme une syncope vont avoir une EMI. Et on le fait avec 256 électrodes sur la tête. On a pu prédire l'activité anormale dans des structures profondes limbiques corrélée avec l'intensité de l'expérience rapporté par après. Mais c'est clair que c'est difficile, c'est pour ça aussi, Marina, si je peux me permettre, on a besoin encore plus de témoignages.
Permettez-vous, vous faites un appel, justement.
Voilà, on a besoin de vous. Contactez-nous sur nde@ulaval.ca. Il y a une série de chercheurs qui essayent de mieux comprendre. Tout d'abord, il faut écouter ceux qui l'ont vécu dans ces différentes circonstances, pas uniquement d'ailleurs aux soins intensifs. On en a beaucoup, ce qu'on appelle les fear deaths. Hein, on a peur de mourir, c'est l'alpiniste qui tombe, il est sauvé par la corde. Mais on en a aussi pendant la méditation, le sommeil, même l'orgasme. Donc on essaye de comprendre le phénomène et les différentes circonstances qui peuvent le provoquer.
Est-ce qu'on peut bien préciser que ça n'a aucun rapport avec la mort cérébrale? On en revient de ces EMI. Tout le monde en revient pour en parler.
Merci de le souligner parce que expérience de mort imminente, il y a ce mot mort. Alors, on ne revient pas de la mort, hein, sauf erreur diagnostique. Et l'EMI n'est pas la mort cérébrale. On a les critères depuis les années 50. Jamais une personne avec les critères de mort cérébrale est revenue pour dire ce qu'il a vécu. C'est important. Quelque part, on a une preuve scientifique de vie après la mort. C'est le don d'organes. On peut sauver jusqu'à cette vie. Donc là aussi, je fais un appel. Ça peut arriver à chacun de nous une insuffisance rénale. Là, on est très heureux d'avoir un don, une greffe. Et il y a, on le sait, cette année, des personnes en France qui vont mourir sur la liste d'attente. Donc, il faut être très clair, c'est quoi la mort.
Il faut dire à ses dire à ses proches si on est pour ou contre le don d'organes pour soi, s'il arrive quelque chose, ce qui permet de ne pas perdre des organes, même si c'est un peu horrible de parler comme ça, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont raconté des EMI?
Alors oui, ça c'est très intéressant, hein, parce que il y a peut-être moins certains biens, mais quand même, les enfants... le plus intéressant pour nous, c'est d'avoir l'enfant qui survit les soins intensifs et qui peut directement rapporter. Ou pour le moment, on utilise aussi le dessin. On a des outils en intelligence artificielle pour comparer ce que l'enfant va dessiner, parce que je pense que c'est une expérience émotionnelle pure. Où le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye de donner un sens. On est en train d'avoir cette discussion. Et là, il se passe quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Et on a l'hémisphère gauche avec le réseau du langage où je vais m'expliquer à moi-même qu'est-ce qui vient de se passer. Et là, il y a déjà une reconstruction. Et puis, je le partage avec d'autres, avec des mots. Et donc, l'enfance, c'est très intéressant. Il y a des témoignages. On a aussi les aveugles et leur perception, comment ils vont voir différemment lors de l'EMI. Donc oui, on a toutes ces différentes populations qui peuvent nous aider à réduire un peu notre ignorance.
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir encore des examens d'imagerie, des techniques, l'utilisation de différents produits hallucinogènes qui permettraient d'aller encore plus loin dans notre cerveau et de comprendre encore mieux ce qu'est la conscience ?
Certainement, ça va être quelques prix Nobel hein, pour ceux qui vraiment vont proposer une théorie de la conscience, mes pensées, mes perceptions, mes émotions. Entre-temps, on a une série de données expérimentales, d'hypothèses. Par exemple, la décorporation, c'est quand même très très impressionnant. Il y a une partie ici du côté droit, au milieu, si je vais le stimuler, je peux provoquer cette décorporation. Autre région, côté gauche...
Du cerveau, hein, parce que vous montrez actuellement, tout le monde ne vous voit pas, donc je traduis.
Qui va s'activer quand j'ai ce sentiment d'une présence. Hein. Puis on a les connexions vers les aires visuelles. Je le vois avec des personnes qui ont un AVC qui va donner cette vision en tunnel. Ce sentiment émotionnel, positif ou négatif, avec les structures limbiques, ce qu'on a vu aussi dans notre expérience, va s'activer très probablement pendant l'expérience. Mais à nouveau, je pense qu'on peut pas a priori dire ça doit être telle ou telle région, neurotransmetteur. Donc, comprendre notre univers intérieur, ça nécessite des scientifiques un peu rebelles qui osent remettre en question les vérités d'aujourd'hui, parce que nous, on n'a pas de livre saint. C'est en permanence une remise en question. Et donc, je suis très heureux de pouvoir, avec les différentes équipes, continuer cette quête.
Vous allez continuer à essayer de vivre une EMI ou vous allez renoncer là ?
Non, là, on a décidé en famille que ça suffit.
Que ça suffisait. Ça paraît assez raisonnable d'arrêter un petit peu.
Mais je suis très heureux. Ça m'a permis de mieux comprendre les patients et aussi mon travail comme neurologue aux soins intensifs en rééducation. On part de ce livre, L'expérience de mort imminente, mais je veux aussi parler de la vie. Comment c'est un cadeau, comment c'est un miracle que je reste encore plus que jamais émerveillé et...
Et curieux.
Curieux. Et c'est un cadeau qu'on n'apprécie pas nécessairement à sa propre valeur.
Merci infiniment. Je rappelle votre livre vraiment passionnant, L'expérience de mort imminente, c'est paru chez Odile Jacob. Merci beaucoup.
Merci à vous.